aujourd'hui mercredi à Corbie, au Théâtre des Docks à 18h30, et demain jeudi à Roy, à l'Espace Maréchal, rendez-vous à 18h. Les sélections se font sur place aux mêmes heures.
Parce que vivre l'hôpital, c'est d'abord vivre. La Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France a créé plus de vie pour apporter plus de vie aux personnes âgées hospitalisées.
Se lever le matin avec quelque chose à faire, ne plus rester allongé 20 heures par jour, avoir des loisirs. Quand on est âgé et à l'hôpital, la différence entre la vie et la survie tient souvent à des choses simples.
Pour plus de vie à l'hôpital,
donnons à plus de vie. Envoyez vos dons à plus de vie, 13 rue Scipion, 75 005 Paris ou sur plusdevie.fr.
France Inter. La voix est libre.
Très bon après-midi sur Inter, Daniel Mermet, tout de suite, est le répondeur de la Bassie J'y suis.
Il y a eu un juge pour ordonner l'évacuation. Il y a eu un maire pour la réclamer. Il y a eu un préfet pour organiser la rafle. Il y a eu 10 camions de policiers à 6 heures du matin. Il y a eu les familles jetées à la rue et les enfants interdits d'école. Il y a eu les bulldozers qui ont tout écrasé. Et la nuit dans le froid, sous la pluie. Il y a eu la chasse lancée au petit matin par d'autres policiers. Et par-dessus leurs épaules, les citoyens honnêtes lançant des injures. Hey, les gens, vous croyez que je parle de quoi? Non, non, pas du quartier du Marais en 1942. Je parle de Noisy-le-Grand, hier, la veille de la journée contre la misère. Oh, ça n'était que des Roms, après tout. Hey, les gens, réveillez-vous.
Bonjour, je m'appelle Claudine Cordier, je suis fleuriste à la Ferté-Bernard. J'ai écouté votre émission ce jour, le 16, là, cet après-midi. J'avoue que j'écoutais des fois pas trop parce que je vous trouvais toujours très contestataire, mais j'ai été ravie d'écouter l'émission sur les Roms, mais ça m'a beaucoup, beaucoup sensibilisée et j'aurais souhaité que tout le monde écoute cette émission cet après-midi. Et je pense que j'ai un regard certainement bien différent grâce à vous maintenant. Merci, merci encore.
Les Roms sont éternels des hommes. Un ministre ne dure que quelques mois ou quelques années. Et très peu nombreuses sont les ministres qui ont une noble place dans l'histoire d'humanité. Au revoir et bon courage à tous.
Bonjour, là voici, je suis moi, je trouve que sur le sujet, là, pour les Roms, eh ben, c'est des Européens. Bon, pourquoi ils ne doivent pas rentrer en France? Il faut y avoir libre circulation dans toute l'Europe. Mais la France, il ne peut pas accueillir non plus toute l'Afrique, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et sinon, regardez comment ça se passe. Si on peut les accueillir bien. Mais il paraît que les centres sociaux et même les médecins du monde à Paris, ils sont débordés. Alors, comment il faut faire? La France non plus, c'est pas un grand, grand pays au niveau territoire, au niveau... On est en plus en crise, on est une grande dette. Alors, bien sûr, si on pourrait aider à tous. Mais il faut penser aussi aux gens très simples et qui passent beaucoup de difficultés, des Français. Moi, je suis à Saint-Étienne. Écoutez, Saint-Étienne, il y a plus de 80%, il paraît, des étrangers. Mais quand je monte au bus, il n'y a que moi et une autre personne qu'on peut dire français. Hein. Là maintenant, en 2 ans, on se croirait en Afrique. Hein. Bon, il ne faut pas être raciste, je ne veux pas l'être, mais il faut aider jusqu'à ce qu'on peut, pas plus, parce qu'après, ça va mal partout. Après, c'est tout ce qu'on paye. Au revoir.
Bonjour, alors je vais vous faire une petite liste. Air Liquide, Alstom, fabricant de moteurs, turbines, équipements électriques, Ambro, Dacia, Aventis Pasteur, Beaufour Ipsen, qui aussi est un industriel pharmaceutique, Capirom, pièce technique en matière plastique, Datatim, composants en électronique, Danone, industrie laitière. J'ai pas pu continuer la liste parce qu'en fait, j'ai compté en tout, il y avait 167 entreprises françaises installées en Roumanie. Alors moi, je me pose la question de savoir, sachant le salaire moyen d'un ouvrier roumain, si finalement les Roumains, ils les préfèrent pas en Roumanie pour faire des esclaves roumains pas chers en Roumanie, puisque nous, en France, on est trop chers.
Monsieur Mermet, bonjour, je suis une auditrice fidèle et je vous téléphone pour votre émission sur les Roms. Moi, je pense qu'à force de les enfoncer, vous les rendez complètement odieux. Voilà, vous en faites vraiment trop. Et en plus, peut-être dans un petit coin chez vous, vous pourriez en loger. Ça serait une bonne idée. Voilà, Madame Philippe et Chirol, toutes mes amitiés.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, ce sont les Roms. Hier, c'était le 17 octobre, ne l'oubliez pas. C'était pas des Roms, ceux-là. Ils travaillaient dans nos usines. Papa, on leur a foutu un couvre-feu pour pas qu'ils sortent la nuit. On les a frappés, matraqués, jetés dans la Seine, le sang coulait dans les caniveaux. On les a pendus aux arbres des forêts parisiennes. C'était des Roms, ceux-là. Allez aux associations. Essayez de les restructurer, ces gens qui sont dans une telle misère épouvantable. Aujourd'hui, c'est les Roms et demain, ce sera qui? C'était Louise de Nice. Au revoir.
Merci Louise. C'est effectivement le 17 octobre aujourd'hui, l'anniversaire des massacres du 17 octobre 1961. Au cours de cette soirée et de cette nuit, des dizaines et des dizaines d'Algériens vivant à près de Paris, des familles, des hommes, des femmes, ont été effectivement réprimés et certains massacrés, jetés à la Seine, torturés dans la cour intérieure de la préfecture de police un peu partout au cours de cette nuit, et notamment sur le pont Saint-Michel, au milieu, au cœur même de Paris. Il y a une commémoration cet après-midi, en fin d'après-midi, sur ce pont. Je tâcherai d'y être, mais j'invite tous et toutes, surtout évidemment les plus jeunes, à vous documenter sur ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là, du 17 octobre 1961. Et de militer, je dis bien militer, pour la reconnaissance de la responsabilité de notre pays, de notre République, dans ces massacres dirigés par le préfet de police qui était à l'époque Maurice Papon, mais il y avait au-dessus de lui des responsabilités qu'on ne peut pas négliger ou occulter. 17 octobre 1961. Donc, merci également pour tous vos messages sur l'émission d'hier, sur les Roms. Je ne suis pas raciste, mais les Roms. On continue aujourd'hui sur ce sujet. Le reportage de Charlotte Perry hier nous a montré qu'il y a des endroits où ça s'arrange, où c'est possible, discrètement, sans faire grand bruit, si bien qu'on voit de plus en plus qu'il s'agit bel et bien le titre d'un livre d'Étienne Liebig qui dit « C'est une peur populaire transformée en racisme d'État », et bien c'est bel et bien ça, Liebig a raison, c'est bel et bien ça qui se passe dans notre pays, un racisme d'État exacerbé, exploité, utilisé par un certain nombre de personnalités, de personnages politiques. On va en parler dans l'émission d'aujourd'hui, mais auparavant, on va à Roissy. Qu'est-ce qu'on va faire à Roissy? Eh bien, ce matin, les Samsonites, nos héroïnes, ces 14 ouvrières licenciées de Samsonite il y a déjà quelques temps et qui n'arrêtent pas de se battre, qui n'ont rien lâché, qui ne lâchent rien, revenaient ce matin même des États-Unis où elles sont allées à Chicago, à côté de Chicago, à Freeport, également à Boston et à New York. Pourquoi faire? Pour rencontrer d'autres ouvriers, ouvrières dans leur situation qui vont se faire virer comme des malpropres, qui sont en train de se faire virer comme des malpropres. L'usine dans laquelle ils travaillent se retrouve délocalisée en Chine et elles sont venues les soutenir. Et également, elles sont allées à Boston porter devant le tribunal une plainte contre Bain Capital, qui est ce fonds d'investissement créé en 1984 par un certain Mitt Romney, et elle considère que Mitt Romney et Bain Capital a une responsabilité dans leur licenciement, comme dans les licenciements de ces ouvriers, de ces ouvrières américains, américaines, par milliers. Donc c'est évidemment que tout ça n'est pas étranger à la campagne présidentielle aux États-Unis, mais on les a retrouvés, Anna Elverzo les attendait ce matin à Roissy.
Il est 11h, mercredi 16 octobre, et je suis à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et j'attends que les Samsonites arrivent, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'elles rentrent des États-Unis. Voilà Fyodor Vilov.
Hello.
Ça s'est bien passé le vol?
On était décalés, tout y est décalé. De toute façon, on ne sait plus quel jour on est, quelle heure il est.
Non, mais on ne dormait pas beaucoup. Oui.
Et alors New York, devant le siège de Bain Capital, il y avait du monde?
Pour eux, c'est énorme. Et c'est vrai que ça ne m'étonne pas quand on voit de la façon qu'ils sont traités pour faire une manif. Plus, ça serait impossible, je crois. Ou alors, ça serait la bagarre avec,
avec les
forces de l'ordre et tout. Ouais, parce que là, pour le peu qu'on était, c'est sans arrêt en train de venir pour nous repousser. C'est pas violent, mais ils ont un air, ils ont tellement déjà un air méchant qu'on n'a pas trop envie de s'approcher d'eux.
Devant le siège de Bain Capital, vous avez pu voir Mitt Romney.
Il se cache. Ah, puis pour lui, c'est peut-être pas encore assez luxueux. Pour toi, c'est luxueux, hein, mais pour lui, c'est peut-être pas encore assez. Puis bon, ben, on n'était pas venus voir, hein, nous, on était venus entraider les ouvriers. Quoi, donc,
Et à Chicago, alors, enfin, à Freeport, comment ça s'est passé?
À Freeport, celle-là, ça a été une journée très, très émouvante. Pour eux, c'est encore plus terrible, l'occupation, parce que nous, on pouvait occuper sans gros problème, tandis qu'ils sont obligés, ils ne peuvent pas occuper, même sur le trottoir de l'usine, ils ne peuvent pas. On comprend encore plus leur peine et puis leur combat, parce que c'est plus difficile que nous après le licenciement.
Parce que là, ils vont tous être licenciés d'ici à la fin de l'année.
À partir du mois de décembre, normalement, les licenciements, les machines vont s'en aller. Ils vont être exportés en Chine, les machines. Donc, ils avaient fait une banderole avec notre arrivée, donc France. Et puis après, il y a eu un débat entre nous qui a été très, très fort.
Et après, vous êtes allé à Boston hier, c'est ça?
Hier, nous sommes allés à Boston. Donc, on est allé voir avec Fyodor l'endroit où il va déposer notre dossier au juge. J'ai l'impression que même si on va là-bas pour l'audience, on sera rassuré déjà en entrant dans les locaux. Ça a montré là-bas aux gens que là-bas, c'était encore plus dur que chez nous, et avec des villes aussi riches, quoi, on ne s'imagine pas. Donc oui, ça les a remotivés. Et on leur a dit, c'est pas parce qu'on est des petits ouvriers qu'on ne peut pas attaquer des grosses sociétés, on ne peut pas attaquer Bain Capital.
Voilà, dans le genre David contre Goliath, c'est vrai que c'est quelques ouvrières des Nains Beaumont face au monstre Bain Capital, ça a quelque chose de formidable, d'encourageant, et on espère absolument, on fera tout ce qu'on pourra, et on vous invite évidemment à les soutenir pour que ce combat ait lieu, au moins, à défaut, peut-être sera-t-il vainqueur, peut-être gagneront-elles, c'est ce que nous espérons, mais au moins n'auront-elles pas la honte de ne pas avoir essayé, et ça c'est très très encourageant. Donc on va aujourd'hui, on continue notre voyage chez les Roms, qui ne sont pas forcément toujours des gens du voyage. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour tout le monde, bonjour Daniel. Juste un petit message à l'attention de ces super dames de chez Samsonite. J'espère vraiment qu'elles vont arriver à faire quelque chose, j'espère vraiment qu'elles vont aller au bout. Parce qu'elles le méritent, et ce qu'elles font, c'est vraiment extraordinaire, ne serait-ce que d'aller aux États-Unis pour se faire entendre. Je trouve ça génial.
Il est sympa le nouveau slogan de France Inter. France Inter, la voie est libre. C'est bien ça. Ben, si la voie est libre maintenant, il faudrait peut-être penser à réintégrer Porte et Guillon. Non, Fifi, t'es pas d'accord? Allez, merci. C'était Lionel de Biarritz.
Salut aux AMG. C'est un message pour les AMG de Rouen et d'ailleurs. Vous ne manquerez pas le prochain Café Repère qui se tiendra au Café de l'époque, rue Armand Carrel, à Rouen donc, entre 18h et 20h30, voire au-delà pour les fanatiques, les désœuvrés, les poètes et autres objecteurs de pensée unique. À jeudi.
Salut les Daniel, salut l'équipe, c'est Nicolas de Lyon. En 2011, 2 milliards 4 d'euros de dividendes ont été distribués à ses actionnaires par BASF, le numéro mondial. de la chimie. Je ne sais pas combien va leur coûter le PSE qu'ils ont prévu pour fermer leur branche cosmétique de luxe à Lyon. Mais en tout cas, je pense beaucoup moins. Voilà, tu vois, c'est des entreprises qui dégagent un maximum de bénéfices et de rentabilité et qui, sous prétexte de compétitivité, va détruire encore des emplois, toujours et encore. Voilà, appel à la grève demain jeudi au 32 rue Saint-Jean-de-Dieu à Lyon, dans le 7e, pour le mécontentement des ouvriers et des employés qui veulent préserver leur emploi.
Bonjour les amis des bords de Loire, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Je vous donne rendez-vous pour animer nos discussions de notre prochain Café Repère qui aura lieu le jeudi 18 octobre à 20h30 au Café Le Mathélème à la Varenne. En effet, au lendemain de la concertation nationale et dans le cadre du projet de refondation de l'école, nous échangerons durant cette soirée sur le thème des rythmes scolaires. Faut-il en changer? Avec quels moyens? Quelles en seraient les conséquences? À jeudi prochain, donc le jeudi 18 octobre, à 20h30, au Café Le Mathélème, à la Varenne. Bonne journée à tous.
Allô Daniel, c'est Roland. J'ai retrouvé ton vélo. Figure-toi qu'il est parti du 16e pour atterrir du côté de Toulouse, à 25 km, dans les vignobles du Frontonnet. Tu as mon numéro au téléphone, je te le garde précieusement. Salut à toute l'équipe.
Il ne s'agit pas de stigmatiser les Roms. En aucun cas.
Je pense qu'avant les Roms, il y a d'autres personnes à défendre et à aider. C'est des fugitifs, c'est des gens, des grands voyageurs et c'est tout. C'est des grands voyageurs et ça ne les intéresse pas de travailler.
Il faut impérativement maîtriser le flux migratoire. Je ne reprendrai pas la célèbre phrase de Michel Rocard.
Pensez-vous qu'en France, il n'y a pas assez de misère de s'occuper déjà de la misère française avant d'en faire arriver d'autres?
Je dis simplement, c'est un constat lucide.
C'était le plus bon jour de ma vie, quoi. De pouvoir entrer dans une maison, de pouvoir rester avec mes enfants, de ne plus avoir des soucis, parce que c'est pas facile d'habiter dans des camps. Et je vois que maintenant, ça a marché pour nous, ça peut marcher pour les autres aussi. Mais il faut leur donner la chance.
Là-bas, si je suis, c'est sur France Inter.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Je ne suis pas raciste, mais les Roms...
Flight number 2, arriving from New York.
Oui, bah me voilà arrivée à Lieusaint. C'est une petite commune de 10 000 habitants, en Seine-et-Marne, juste à la frontière avec l'Essonne. On se croirait comme dans une petite ville de campagne. Il y a des petites maisons avec des géraniums aux fenêtres. La police municipale, juste à côté de la mairie, en face de l'église. Le monument aux morts. Derrière, il y a un petit parc avec des pavillons. On y arrive en empruntant la ligne de RER D, en direction de Melun. Et Lieusaint, eh ben c'est seulement à 8 km aussi d'Évry, l'ancien fief de Manuel Valls, où la politique vis-à-vis des Roms consiste à expulser et à chasser les familles des terrains où elles se sont installées en espérant qu'elles aillent s'installer un petit peu plus loin, sur la commune d'à côté ou un peu plus loin dans le département. Et à Lieusaint, justement, eh bien le maire, Michel Bisson, a décidé de retrousser ses manches et au lieu de rejeter la faute sur les autres, eh bien il a mené une politique d'intégration des familles roms.
Et il n'est pas le seul, le maire de Lieusaint. Il y a toute une série de municipalités où les projets d'insertion par l'habitat fonctionnent bien, plus ou moins bien, mais on y arrive peu à peu, souvent très discrètement. Pourquoi irait-on sonner les médias lorsqu'on a réussi tout simplement dans une municipalité à intégrer patiemment, avec le temps, quelques familles intégrant les enfants dans l'école, alphabétisation, en essayant de trouver des logements à peu près potables. Et puis, il y a la question, évidemment, de l'emploi. Sur la question de l'emploi, c'est assez intéressant de voir ces spéculations sur les emplois non pourvus, les fameux emplois non pourvus, selon un certain Sarkozy-Nicolas, il y en avait soi-disant 500 000. En fait, Le chiffre le plus souvent avancé, il est de 200 000, mais encore est-il discutable ce chiffre de 200 000 ? On ne sait pas exactement. Prenons-le avec le flou qui l'entoure, ce chiffre. Bien, prenons un autre chiffre maintenant, celui des Roms présents en France, de Roumanie ou de Bulgarie. On avance le chiffre de 15 000. Ça, c'est un chiffre très très flou aussi, parce que pour d'excellentes raisons, il n'y a pas de statistiques ethniques chez nous en France. Et on a bien raison de ne pas en avoir. Donc, ce chiffre-là est très très flou. Comment définir qui est Rome et qui ne l'est pas ? Mais à partir de ces deux chiffres flous, je vous concède qu'il s'agit de chiffres flous, on peut aller vers un résultat qui est de dire, s'il y a 200 000 emplois non pourvus, 15 000 Roms qui cherchent du boulot, c'est pas 15 000 qui cherchent du boulot, c'est parmi ces 15 000 uniquement des parties de la famille, puisque ce sont des familles. Donc c'est peut-être, disons, 5 000 auxquels on pourrait fournir du boulot, qui pourraient trouver du travail dans ces emplois non pourvus. Donc on voit bien tout de suite, même si ces chiffres sont flous et doivent être pris avec des pincettes, que le problème de l'emploi n'est pas un vrai problème. Donc il y a d'autres problèmes dans ces problèmes des Roms, et qui est un problème évidemment de l'exploitation et de l'exacerbation d'une peur populaire. Il y a une peur populaire très ancienne envers les nomades, envers ceux qui voyagent, envers les bohémiens. C'est vrai. Mais récemment, les politiques, les hommes politiques, les partis politiques, excusez-moi, les partis politiques ont choisi d'exacerber et d'utiliser cette peur et d'en faire un racisme national, un racisme absolument débridé. Il faut sans doute revenir aux années 30, au temps de l'antisémitisme, ou peut-être à ces années 50-60 du racisme anti-arabe, pour trouver un racisme aussi débridé, aussi ouvert, aussi unanime contre une population. Pour ce qui concerne l'islamophobie, c'est plus compliqué. Il faut avoir un masque, un déguisement de gauche, ou dire que c'est au nom de la défense des femmes, ou au nom de la défense de la laïcité. Mais là, avec les Roms, on peut y aller carrément. On peut y aller carrément, c'est très facile. Ils sont repérables, ils sont pas agressifs. Quand on les déplace, ils se laissent faire. Ils n'ont pas de recours, ils ne font pas de procès. Donc c'est extrêmement facile de s'en prendre à ces populations, à ces pauvres gens qui essayent tout simplement de vivre un peu moins mal que dans leur pays, où, comme l'indiquait cette auditrice, nous avons beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales sont présentes en Roumanie, dont des multinationales, des grandes entreprises françaises. Donc là, il y a quelque chose de particulièrement injuste, odieux, et certaines municipalités en France, on va le voir ici à Lieusaint, sans tambour ni trompette, font un travail simplement normal d'intégration. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Je ne suis pas raciste, mais les Roms... We'll be right back.
Moi, ben là, je suis toujours à Lieusaint. Et je me trouve sur le mail des pépinières. Il y a des petites maisons individuelles, les unes à côté des autres. Petites maisons avec du crépi, des volets peints en couleur, un garage, une petite haie devant chaque maison. Et je vais aller retrouver monsieur Marian Stanchio, qui fait partie des personnes bah, qui ont trouvé un emploi et un logement ici à Lieusaint. Alors, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là, au fond. Il y a une camionnette garée devant, une couverture qui pend à la fenêtre et un portail en fer forgé devant. Je peux rentrer, merci. Bonjour.
Bonjour, Marianne.
Enchantée.
Vous pouvez rentrer.
Merci. Vous appelez comment ?
Marianne Stanchio. J'ai acheté ma maison. Je suis propriétaire et je suis fier de dire depuis le 25 janvier 2012. Pas ici, j'ai acheté une autre maison. Ici, c'est un HLM. Donc, mais je vais déménager bientôt. Et j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai les enfants qui sont scolarisés. Donc, tout va bien pour l'instant, on pouvait s'en sortir, quoi. Mais c'est grâce à la commune de Lieusaint, parce qu'ils ont accepté le maire de faire le projet avec les familles, plusieurs familles. Ils nous ont accueillis sur un terrain avec les caravanes. Petit à petit, ils nous ont aidés pour trouver un boulot. Et de ce moment-là, quand on avait le boulot, on avait le titre de séjour en 2000, parce que sans le titre de séjour, on ne pouvait pas travailler.
Vous faites quoi comme travail ?
Je suis chauffeur. Je travaille dans un parking, un centre commercial. J'ai balayé le parking. Je travaille de 12h à 9h du matin. Donc je quitte chez moi à 2h du matin pour commencer à 3h et à 9h du matin, c'est fini. C'est pas facile, mais ça va. C'est mon boulot, j'accepte, j'ai ma paye. C'est comme tout le monde, on travaille pour gagner notre vie. Je gagne 1650 € net.
Claire. Quand Étienne nous dit oui, mais ils peuvent pas travailler, malheureusement, je reste aussi persuadée.
RMC, septembre 2011.
Que s'ils avaient le droit de travailler.
T'es pas convaincu qu'ils.
Non,
qu'ils
travailleraient parce qu'ils ont, malheureusement. Il y a malheureusement une culture chez eux qui n'est pas la nôtre.
Claire Aupetit, conseillère municipale MoDem à Saint-Denis.
Ils vivent d'une façon qui ne s'est pas la nôtre, oui. Et ils ne font aucun effort pour s'y intégrer. Et ça, c'est extrêmement pénible.
Alors,
je suis très habitué au racisme anti-homme parce que je te dis, il n'y a aucun risque.
C'est pas du racisme, c'est d'un
racisme. Mais putain, il parle tout de suite de racisme.
Il n'y a aucun autre
risque. Mais arrête de nous insulter en nous disant de racisme.
Mais alors, j'ai le droit de parler aussi.
T'as pas le droit de nous traiter de racisme. T'as pas le droit de nous traiter de racisme.
Gilbert,
il est tout seul.
Non, mais
racisme, c'est toi.
Et je vais te dire un truc. Il n'y a aucun autre groupe humain au monde sur lequel vous pouvez dire la même chose parce que partout vous prendriez des procès, que celui-là,
ça,
vous êtes tranquille,
il n'y a personne pour vous. Il n'y a aucun autre groupe qui se
avec des cabanes partout. Qu'est-ce qu'on a dit en répréhensible ?
L'autre chose que je veux dire, c'est que tous les Roms roumains qui sont ici et bulgares ont tous été renvoyés en Roumanie. Tous ! Ils sont européens, ils ont le droit d'être ici, premièrement. Et donc, même si on fait des charters entiers, le lendemain, ils reviennent. Soyons pragmatiques avec cette question, c'est pas en ayant d'un seul coup des grands excès comme ça,
c'est horrible,
c'est insupportable. Les gens sont là, Il y en a beaucoup qui travaillent au noir, je te rassure. Les gens sont là. Ils bossent comme ils essayent de survivre au noir, comme tous les gens qui travaillent au noir. C'est difficile pour tout le monde. C'est souvent insupportable pour la population. On peut pas les expulser parce que ça ne correspond à rien puisqu'ils sont européens. Dans deux ans, la législation d'exception va tomber.
Donc ils seront européens
à 100%, ils pourront rester ici. Ils auront droit aux aides sociales auxquelles ils n'ont pas le droit aujourd'hui.
D'où la nécessité de rétablir que voilà, tu le veuilles ou non aux aides sociales.
Mais je ne sais rien quelle est la solution, mais ce que je peux dire, c'est qu'arrêtez de parler dans le vide.
Voilà, une conversation très animée au micro de RMC en septembre 2011. Claire Aupetit, conseillère MoDem à Saint-Denis, fait dans l'incitation à la haine raciale, ce qui est purement et simplement un délit, mais l'interlocuteur qui suit a tout à fait raison, ça, c'est absolument impuni, vous pouvez y aller concernant les Roms. Celui qui lui donne la réplique, c'est Étienne Liebig, dont je parlais en entrant, qui est l'auteur d'un bouquin tout à fait remarquable et intéressant, qui s'appelle « De l'utilité politique des Roms », sous-titré « Une peur populaire transformée en racisme d'État ». Et Liebig est depuis très longtemps éducateur et connaît parfaitement bien les Roms, les Tziganes, les Manouches, notamment de Montreuil, et a donné là un petit essai tout à fait cohérent et bien courageux de venir dans ce genre d'émission. Nous continuons, nous, avec Charlotte Perry à Lieu Saint.
Arrivé en France quand ?
En 92. Je suis arrivé, j'étais à Nanterre. On était à Nanterre, on habitait à Nanterre, oui. Et là, on était expulsés, tous les Roms, on était expulsés en Roumanie. En 93, on est parti en Roumanie parce qu'on était expulsés. En 94, on est revenu. On avait une maison là-bas.
Vous aviez une maison en Roumanie ?
J'ai une maison en Roumanie, mais avec la maison, on ne peut rien faire. Parce que pour nous, les Roms, ça a été difficile de trouver un travail. Déjà, pour tout le monde, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, on était obligés de travailler dans les fermes, faire la terre et tout ça, mais avec ça, on ne pouvait pas s'en sortir. Mes parents, ils travaillaient comme éboueur, mon père. Il a travaillé pendant 20 ans, il est décédé à 34 ans.
À 34 ans ?
Il est décédé. Il a fait un infarctus. Il a commencé à 14 ans à travailler. Des fois, je me suis demandé comment ils font les gens pour vivre là-bas. Avec 300 euros de salaire, c'est impossible.
Mais du coup, vous avez quitté votre maison en Roumanie pour venir vous installer sur un campement en France où les conditions ne devaient pas être faciles, quoi.
Ce n'était pas facile, mais on a préféré ça que la Roumanie. Ici, on pouvait aller vendre les journaux ou travailler en noir. Et on pouvait acheter le pain, le nécessaire et tout, qu'est-ce qu'il faut pour nos enfants. Ça a été difficile, très très difficile. C'était les restaurants de cœur, le secours populaire qui nous aidait.
Vous vous rappelez le jour où vous avez quitté la caravane pour vous installer ici ?
Oui, je me rappelle, c'était le 23 juillet 2003. C'était le plus bon jour de ma vie, quoi. De pouvoir entrer dans une maison, de pouvoir rester avec mes enfants, de ne plus avoir des soucis, parce que c'est pas facile d'habiter dans des camps. Il y a plein de familles, il y a plein d'enfants, des fois on s'entend pas, et c'est compliqué. Qu'ici on est chez nous, on est tranquille. Et je vois que maintenant ça a marché pour nous, ça peut marcher pour les autres aussi. Mais il faut leur donner la chance. Parce qu'ils disent qu'on fait partie de l'Europe, et qu'on n'a plus besoin d'un titre de séjour, on peut rester comme ça. Mais on peut rester comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme ça si on n'a pas l'autorisation de travailler ? C'est sûr, c'est le travail. Ouais, c'est le travail, ça part tout d'ici. On ne peut pas rester ici en France sans travailler, sans... C'est pas possible pour demander à chaque fois l'aide ou pour aller faire la manche, vendre les journaux ou des fois faire des conneries, non. Parce qu'ils disent à chaque fois que les Roms, c'est des voleurs, les Roms, c'est... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais après, quand ils ont un boulot, ils n'ont plus envie de faire ça.
Mais après, vous savez, il y a des Français qui vont dire « Oui, mais nous aussi, on a besoin de travail, nous aussi, on a besoin de logement. Pourquoi des gens qui ne sont pas Français, ils passent avant nous ?»
Peut-être qu'il y a des gens qui disent ça, mais de travail, il y en a. Il y en a dans le nettoyage, il y en a dans les bâtiments, il y en a plein de travail. Mais qu'est-ce qui pose et qu'est-ce qui empêche pour les gens pour travailler, c'est les cartes de séjour, le titre de séjour de rester ici en France, c'est-à-dire l'autorisation de travailler.
Là-bas, si je suis, c'est sur France Inter.
Comment ça va là-haut ?
Ah, c'est la mort.
Ils vont taper dans les combines avec les Wi-Fi.
Ils nous prennent pour des chiens.
Non, moins que des chiens. Eux, pour leurs chiens, ils ont des cliniques, des soins de beauté, des concours d'élégance. Mais en prison, si tu touches un chien.
Qu'est-ce qu'ils veulent alors ?
On oublie notre race, notre sang, nos coutumes. On disparaisse.
Aïe, aïe, l'accueil, rarement avec le sourire. Nous appeler les voleurs de poules leur colle toujours le fou rire. On leur demande pourtant pas grand chose, juste d'être tranquille. Mais dès que dans un coin on se pose, ils veulent qu'on décolle, persuadés que tous les shit en vol. Ils refusent nos enfants dans leurs écoles, les laissant ne savoir ni lire ni écrire. Demain ils s'étonneront, hein, de les voir capables du pire. On subit leur haine dès le plus jeune âge. Nos originatismes, méfiance et rage, les préjugés sont pas prêts de mourir sur nous. Les rumeurs continuent de courir, ils te le diront, y'a pas de gentil gitan. Ils nous détestent et on finit par en faire autant. Ouais, on finit par en faire autant. Ouais, on est juste différents, parce que chez nous c'est partout différent. Parce que nos maisons ont des roues si serrant. Parce qu'on n'est pas de chez vous différent. Parce que plus que tout notre façon de vivre se passe de votre accord. On choisit nous-mêmes nos routes et nos décors. On n'est pas corrompus par votre système. On balancerait pas le voisin pour avoir son BM. On s'entraide, on cache nos peines derrière des grimaces. Dieu comme témoin, le paradis nous promet une place. En attendant à chaque jour son lot de primates, jugés brigands alors que juste nomades. Manouche, Zigane, Rome, Sinti, le meilleur chemin est celui qu'on choisit. Manouche, Zigane, Rome, Sinti, le meilleur chemin est celui qu'on choisit. On choisit.
Aïe, aïe, llévame contigo. Aïe, aïe, llévame contigo. No.
C'est bon, Louis Tana. La vida muy buena.
Sinti.
Somos los gitanos, el terrible guapo, con la alegría gitana.
Alors, Michel Huisson, vous êtes le maire de Lieusaint, là où on se trouve.
Oui, voilà, tout à fait. Une belle commune de l'agglomération nouvelle de Sénart, donc située au sud-sud-est de l'agglomération parisienne. On est sur la rue Neuve, donc une rue qui est là aussi dans le centre historique de Lieusaint. Et donc sur ce terrain-là, qui est aujourd'hui une friche sur laquelle il y a un certain nombre de projets, c'est donc le terrain de la première installation d'une dizaine de familles roms, donc en plein cœur de ville, au milieu d'urbanisation. Donc c'est là, pour la première fois, où pour ma part, j'ai été confronté à ces difficultés, aux difficultés des roms, à la fois de vivre et de s'intégrer en France, mais aussi évidemment aux problèmes qu'ils posent par rapport aux services et par rapport aux populations riveraines.
Ça, c'était quand ?
Ça, c'était en 1998. Et je pense que le fait d'être jeune élu, et donc d'une certaine manière un peu naïf, la naïveté quand même a été vraisemblablement un des éléments qui m'ont donné l'énergie de m'engager dans un combat qui était bien plus compliqué que ce que vous pouvez tous imaginer à ce moment-là. Donc là, on se rend sur le terrain d'accueil, ce qui est aujourd'hui le terrain d'accueil des gens du voyage, mais qui a servi à son origine et qui a été réalisé pour cela, pour servir de support physique aux Roms et ainsi rentrer dans le projet d'intégration sanitaire et sociale que nous avons monté. Donc ce projet-là a duré 3 ans pour intégrer 32 familles. À l'arrivée, donc sur ces 32 familles, ou 33 familles très exactement, il y a eu 29 familles d'intégrés. 4 n'ont pas réussi. Sur ces 4-là, 2 ou 3 ont été exclus du système. Par exemple, pour 2 d'entre elles, les engagements forts que l'on demandait, c'était la scolarisation tous les jours des enfants. Et comme 2 familles n'ont pas scolarisé les enfants comme il se devait, elles ont immédiatement été sorties du système. Et le coût du projet d'intégration, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, ce qui était le cœur du projet, parce qu'on pourrait dire, oui, mais tout ça c'est bien, mais c'est extrêmement coûteux. On est sur un coût qui était de 200 000 euros par an. 200 000 euros par an. C'est peu. C'est peu. Je l'avais comparé à une procédure d'expulsion d'alors, puisque à ce moment-là, on était la seule expérience en France. Et à ce moment-là, une expulsion, c'est-à-dire les forces de police mobilisées, je ne compte pas ça. Mais en tous les cas, le fait de dire, bon, pendant un mois, on les loge dans des hôtels en attendant de voir, ça, ce mois-là, coûtait les 200 000 euros que nous dépensions pour une année et pour l'intégration de 33 familles.
Alors voilà, le long travail d'intégration, la volonté d'intégrer avec des réussites, avec des échecs, mais peu à peu, finalement, eh bien, ça se fait. Alors, Michel Bisson vient de parler des populations riveraines. Voilà, dans un bistrot voisin, une réaction.
Comment votre prénom ?
Jamais vous le saurez. Jamais vous le saurez, je ne vais pas le dire. Je pense qu'avant les Roms, il y a d'autres personnes à défendre et à aider. C'est des gens qui sont, c'est des fugitifs, c'est des gens, des grands voyageurs et c'est tout. C'est des grands voyageurs et ça ne les intéresse pas de travailler.
Ici à Lieusaint, il y a 32 familles maintenant qui vivent à Lieusaint, entre Lieusaint et Combes.
Parce qu'on a passé ces gens-là avant d'autres personnes. Avant d'autres personnes. Il y a combien de chômeurs à Lieusaint ? Il y a combien de chômeurs dans l'Île-de-France ? Pour moi, ça passe avant. Vous savez, n'importe quelle personne, qu'elle soit française, portugaise, anglaise, machin, quoi que ce soit, quand elle a faim, il y a un bon proverbe qui le dit. Le loup, il sort du bois quand il a faim.
Alors justement, est-ce que c'est pas une bonne raison pour aider les gens à avoir un boulot et comme ça, ça diminue la criminalité aussi ?
Pensez-vous qu'en France, il n'y a pas assez de misère de s'occuper déjà de la misère française avant d'en faire arriver d'autres ? Et des gens qui rentrent sans papier, quoi que ce soit, sans demander l'autorisation de quoi que ce soit, on débarque chez vous, c'est comme si on rentrait dans votre maison, qu'on débarque, on a faim, on mange. C'est exactement pareil. C'est comme ça que je le conçois. Je suis un dur, hein. Maintenant, je vais dire quelque chose. Moi, mon père, il est mort en Indochine, et je suis fier. Il a travaillé pour la France. Moi, j'ai travaillé pour la France. J'ai 60 ans aujourd'hui. Je suis pipi de la nation. J'ai rien demandé. J'ai toujours gagné ma vie, j'ai toujours fait quelque chose. Quand on a envie de s'en sortir, on arrivera à s'en sortir. Mais pas comme ça. Pas la mendicité. C'est pas de la mendicité, le travail, c'est les mains.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis couvreur zingueur.
Moi, je le rejoins de toute façon. Je le rejoins dans son raisonnement. Je pense qu'il faut d'abord aider les Français avant d'aider les autres. Sarkozy a voulu les renvoyer chez eux. Hein. Tout le monde s'est opposé à ce truc-là, mais bon, c'était une solution quand même.
Vous étiez pour le retour à la frontière, mais comme ils sont européens, ils reviennent après.
Oui, ça c'était une solution, mais bon, il n'aurait pas fallu que ça revienne, quoi. Pour refermer l'Europe à ce moment-là. De toute façon, moi je suis Marine Le Pen. Hein. Il n'y a pas de. Mais j'ai rien contre les étrangers chez eux.
Vous travaillez dans quel domaine ?
Dans la couverture.
Couverture comme le monsieur ?
Oui, on travaille ensemble.
Vous avez une entreprise ensemble ?
Oui. Oui, on va y retourner, oui, 2 heures, oui. Pensez même, oui.
Bah, merci beaucoup en tout cas. Au revoir.
Alors, quelques éléments de réponse à ce que vous venez d'entendre. On retrouve Grégoire Cousin, qui est juriste et doctorant en droit public, au sein de l'Observatoire Urba Rome. Grégoire Cousin.
Depuis 2007, les ressortissants roumains et bulgares n'ont plus besoin de titre de séjour pour rester en France, sauf s'ils veulent travailler. Dans ce cas-là, ils ont une obligation de titre de séjour. Cette obligation de titre de séjour est délivrée par la préfecture. Si vous trouvez un boulot dans la liste des 150 métiers, qui est une liste assez large, en province, généralement, vous allez avoir votre titre assez facilement. C'est-à-dire que les 150 métiers comprend des métiers comme tourneur-fraiseur. Si vous trouvez une place de tourneur-fraiseur, je ne sais pas où, chez Michelin, il n'y a pas trop de problèmes. En Seine-Saint-Denis, il faut entre 1 an et 2 ans d'attente. Autrement dit, c'est absolument impossible d'avoir un titre de séjour vous permettant de travailler en Île-de-France.
Donc ce qui fait que les gens ne peuvent pas travailler légalement ?
D'un point de vue pratique, oui.
Mais alors, du coup, est-ce que, si ces mesures étaient levées, est-ce qu'on peut évaluer un peu l'impact que ça aurait, par exemple, sur la délinquance ?
Sur la délinquance, c'est sûr que, pour moi, la plupart des gens que je connais, qui sont pris dans des affaires de délinquance, c'est de l'économie de survie, très clairement. Les gens, ils ont une famille avec 3 enfants, ils arrivent difficilement avec leurs activités de vol, de je sais pas quoi, de ferraille, à gagner 500-600 euros dans le mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas des palais en Espagne, hein, ça c'est n'importe quoi. Donc c'est sûr que si on leur propose la possibilité d'avoir un boulot légal payé à un SMIC français, ils sautent dessus, parce qu'aujourd'hui, les activités délinquantes leur rapportent beaucoup moins. Donc de toute évidence, sur toute cette partie-là de la délinquance, ça aura un impact fort.
Donc, mais du coup, ces mesures transitoires devraient être levées en 2013, fin 2013, non ?
Le gouvernement peut les lever à tout moment. Si on les lève fin 2013, on sera pratiquement le dernier pays d'Europe à les lever, alors qu'il suffirait d'un trait de plume pour régler la question.
Pourquoi, à votre avis, c'est...
Alors, sous le gouvernement précédent, il était évident qu'il y avait une question idéologique. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas lever les mesures transitoires parce que les Roms, ça leur permettait d'avoir une sorte de rente de sécurité et qu'en plus, ils levaient les mesures transitoires, le FN allait leur dire qu'il légalisait les Roms. Sous le nouveau gouvernement, ils ont commencé à lever les mesures transitoires un petit peu, pas beaucoup. Alors, il y a deux raisons, je pense. La première, c'est que Valls vit sur la même rente politique que Sarkozy. Et la deuxième, c'est que, en tout cas c'est comme ça que ça avait été présenté par Hérault, il leur fallait quelque chose pour négocier au niveau européen avec le gouvernement roumain pour améliorer les conditions sociales d'insertion des Roms au pays, c'est-à-dire échanger la levée totale des mesures transitoires, donc l'accès au marché du travail total français, contre quelques trucs en Roumanie en faveur des Roms. De toute façon, les gens, ils sont aussi pauvres qu'ils sont roumains ou roms, enfin, font de la campagne roumaine. C'est-à-dire que la Roumanie a vécu dans sa campagne profonde 20 ans de paupérisation très forte. Dans le village, vous voyez, les gens, ils sont aussi pauvres qu'ils soient roms ou roumains. Vous pouvez toujours faire des mesures d'insertion des Roumains, mais vous les insérez à quoi? Une société qui est aussi pauvre autour d'eux. En fait, c'est plus un problème d'exode rural. Parce que cet exode rural, elle se fait à l'échelle européenne.
Donc là, Michel Buisson, on est arrivé sur une aire d'accueil, on a traversé la ville, on se trouve, je crois, pas très loin du RERD, ce que je l'ai entendu tout à l'heure.
Oui, il est juste derrière, donc là on est aux confins d'une zone résidentielle et d'un parc d'activités. Donc nous avons retenu ce lieu-là pour y réaliser donc notre aire d'accueil des gens du voyage. Et donc ce terrain a été réalisé dans un premier temps pour accueillir les familles roms. C'est-à-dire que les trois premières années, durant tout le temps du projet d'intégration sanitaire et sociale, ce terrain-là a été dédié aux familles roms et aux familles roms seulement. Voilà, donc il y a une quarantaine d'emplacements. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de familles roms. Mais il y a des gens du voyage. Dans les 3-4 derniers mois, il devait rester peut-être une demi-douzaine ou une dizaine de familles ici. Donc le terrain était évidemment beaucoup moins rempli. Mais il était important évidemment d'aller au bout et puis de ne pas mélanger les populations, puisque population rome, donc c'est évidemment spécifique, c'est une population plutôt sédentaire et les familles gens du voyage qu'on voit aujourd'hui ont des modes de vie, des habitudes, des cultures qui sont de nature très, très différentes et qui n'auraient pas accepté évidemment ce vivre ensemble que par ailleurs on plaide.
Bonjour.
Bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez savoir?
Moi je faisais un reportage sur les Roms et je suis venue ici parce qu'avant il y en avait sur cette aire de voyage.
Avec Sarkozy, ben c'est qu'il nous a mis dans le dol de pétrin, quoi, là. Hein.
Ah bon, pourquoi?
Madame V, hein, ben lui, il voulait nous mettre dans les camps comme les Roms. Alors on était point de l'autre, parce que là, ça commence à gâteux. Hein.
Vous n'étiez pas content, là?
Ah ben non, sûrement pas. Il commence à s'énerver, là. Ben excusez-moi, j'ai mon jeu, là. Hein.
Pourquoi vous vouliez pas aller sur les campements avec les Roms?
Parce qu'on a peur d'être bouffeux.
Par les Roms? Pourquoi vous dites ça?
Non, parce qu'on a peur de bouffer, parce qu'il paraît que les Roms, ils bouffent les chats humains. On m'a dit ça.
Qui vous a dit ça?
On m'a raconté ça à un gars que j'avais vu, un marin, il m'avait expliqué ça, qu'ils avaient failli bouffer par les Roms. Ah ben, depuis le temps que je vois les Roms, je commence à trembler.
Vous vous mélangez jamais avec les Roms?
Ah non, là. Quand je vois un Rom, que je vois une grande robe, alors là, je me taille. Hein. Ça, c'est ma caravane, oui, c'est ma caravane de vacances. Alors, le reste de l'année, on est en toile de tente. On va voir la Tour Eiffel, le parc de Disneyland. Ben, je croyais que la Tour Eiffel, ben, c'était un truc qui bougeait, mais ça bouge pas, c'est du fer.
Ben
oui. Ben oui.
Vous avez été déçu, alors?
Ben oui.
Vous faites quoi dans la vie?
Et moi, je suis ramoneur. J'emmène une cheminée par-ci, par-là, de temps en temps, quoi.
Marin, vous avez un marin tatoué aussi sur l'épaule?
Ben, je suis un matelot, hein. Ah, je suis un drôle de marin, j'ai fait la morue à Terre-Neuve, j'ai tout fait. Hein. J'ai même pêché le hareng, tout. Non. Ben, je commençais à la retraite. Mais oh, maintenant, on va faire des patates du côté de Saint-Malo. Ça fait nourrir la grosse qui est derrière, là.
La grosse, c'est votre femme, c'est pas très gentil.
Voilà, elle se rejambe comme ça. Ça, redonne-moi un petit morceau de museau de cochon, là. Vous voulez pas manger un petit morceau avec moi? Parce que c'est le bon cœur, hein.
Des belles barrettes en bois, des clients, des écureuils. Ça t'intéresse pas?
Ah, il y avait les robes avant aussi. Bah, nous, on vient d'arriver.
Vendredi. Toi, tu t'appelles comment?
Noah.
Donc, vous êtes arrivé vendredi, vous étiez où avant?
À Saint-Brieuc.
Ah, les Bretons.
On va un peu dans tous les pays, quoi.
Un peu partout en France.
Ouais.
Et vous êtes allé où?
Dans le sud. Dans le sud, on est déjà venu ici dans la région parisienne. Après, on était à Tours.
Dans le midi, à Marseille.
Et toi, ça te plaît de voyager comme ça partout?
Ouais. Mais depuis tout petit, on fait ça. Toujours.
Il y a 10 ans qu'il est sur le voyage. On est des vrais gens du voyage. On n'a jamais resté sur place, même avec nos parents. C'est pour ça qu'on a appelé les gens du voyage. On voyage toutes les semaines, tous les 15 jours.
Tous les 15 jours, vous changez d'endroit?
Oui, des fois, tous les semaines. Tous les dimanches, de dimanche en dimanche.
Alors, pour travailler, ça ne doit pas être évident?
Ben si, les marchés, il y en a partout. Hein.
Ah, vous faites les marchés?
Oui.
Et vous vendez quoi sur les marchés?
Ce qu'on trouve à vendre.
Des bijoux, des...
La mercerie aussi, les vêtements, un peu de tout. Non, ça c'est
Alicia. Mais jamais vous avez eu envie de vous poser dans une maison?
On étouffe, on manque d'air. De toute façon, on n'a pas les moyens d'acheter une maison. Ouais, hein.
Ça coûte cher en plus.
On va repartir, c'est quand qu'on repart? L'autre dimanche, je crois.
Et vous savez déjà où vous allez aller?
Ben, normalement, on va dans le Nord.
Et vous décidez comment, où vous allez?
Et comme ça, d'un seul coup, ça y va dans la tête. Et après, peut-être qu'on va aller dans le Sud, on ne sait pas. D'où Dieu nous emportera, quoi.
On a 10 caravanes.
10 caravanes?
Eh bien, on se retrouve sur des places comme ça. On va en mission. Il y a plusieurs caravanes. Il y a un chapiteau qui est monté. Et puis, ça se passe comme ça tout le temps. Et ça se passe bien. En ce moment, à Lille, il y a 500 caravanes. À Bendu. C'est une mission évangélique qui a duré un mois. Au moment de la braderie.
Ah, la braderie?
La braderie de Lille, oui.
Et quand vous vous dites que vous faites une mission, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'il y a des témoignages, il y a des chants, il y a des prédications. Nous, c'est notre évangile.
Nous, on croit en Dieu. Il y en a qui croient à Marie, il y en a qui croient un peu de tout. Quoi. Nous, c'est ça, en fait.
Vous ne croyez pas à Marie, vous croyez que en Dieu?
Ben, on la respecte, on le sait qu'elle existait, mais nous, on croit en Dieu. Et à l'âge de 16 ans, parce qu'il faut faire une expérience en fait, avec Dieu, à l'âge de 16-17 ans, ou n'importe quel âge, il faut se baptiser.
Oh, Patricia !
Passer par les eaux du baptême.
Vous l'avez fait ?
Oui, moi j'avais 16 ans, maintenant j'en ai 28. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça en fait, les gens du voyage. Enfin, la plupart, quand même. Voilà.
Rencontre avec les Diganes évangéliques, rencontre aussi avec le matelot, mais qui n'est pas dépourvu d'humour, évidemment. Quand il dit qu'il a peur de se faire bouffer par les Roms, d'abord, faut prendre ça au deuxième degré. Mais cela dit, il y a évidemment une tension, c'est pas nouveau, entre ceux qu'on appelle les gens du voyage et ces Roms venus de Roumanie et de Bulgarie. C'est des situations très fréquentes. On se souvient des problèmes des diasporas, les nouvelles et les anciennes diasporas, la façon difficile souvent de s'intégrer. On est en train de parler d'histoires humaines, d'histoires très très anciennes, des vies, des sociétés et des vies des hommes. Rien de nouveau là, des solutions difficiles toujours à mettre en place entre le local et le global. On retrouve Michel Bisson.
Tu sais, papa, j'ai appelé le 30-25 pour préparer ma retraite avec Préfonds Retraite, le spécialiste de la retraite des agents de la fonction publique.
Déjà ?
Il n'y a pas d'âge pour bien préparer sa retraite. D'ailleurs, tu devrais t'y mettre.
Non, tu as raison.
En plus, avec Préfonds Retraite au 30-25, l'appel est gratuit depuis un poste fixe.
Être utile à Paul, cuisinier, c'est lui donner de la visibilité sur ses dépenses d'énergie.
Moi, c'est Paul, et dans mon resto, c'est dur de prévoir. Un soir, j'ai 30 couverts, un soir 50. Heureusement, côté énergie, c'est différent. Avec la nouvelle offre de marché de GDF Suez Énergie France, l'électricité et le gaz naturel sont à prix fixe pendant 3 ans, avec en plus une remise équivalent à 10% sur mes abonnements.
Informations et conditions au 0811 01 3000, appel non surtaxé et sur notre site internet. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Du 18 au 21 octobre, c'est la fête de l'énergie. Venez faire le plein de conseils auprès de votre espace Info Énergie et réalisez des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur adem.fr ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe.
France Inter et le Théâtre de la Gaîté Montparnasse présentent actuellement La Compagnie des Spectres. D'après le roman de Lydie Salvert, interprété et mis en scène par Zabou Bretman.
Les grandes choses, a écrit Épicure, sont celles qui ne s'achètent pas. Et c'est une phrase, ma chérie, que je me répète chaque fois que j'ouvre le frigo.
Retrouvez Zabou Bretman au Théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On n'a pas retrouvé Michel Bisson, le maire de Lieusaint. On le retrouvera demain. Il fallait laisser la place à la publicité, très important, la publicité sur France Inter. Merci à toutes et à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry, Sandrine Laurent et Gilles Gaillard étaient à la technique. Lucie Acoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée par Pierre-Yves Bulteau et Solène Cordier. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la base. J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Nicolas Théillard. Salut.
La France fait confiance à la Cour suprême mexicaine sur le cas de Florence Cassé. Message de François Hollande qui accueillait cet après-midi son homologue mexicain Enrique Peña Nieto. Discours d'apaisement après plusieurs mois de brouille entre les deux pays au sujet de cette Française emprisonnée depuis 2005 pour complicité d'enlèvement au Mexique et qui a toujours clamé son innocence. François Hollande sollicité par l'intersyndicale de Petroplus après l'annonce de la liquidation de la raffinerie de Petit-Couronne hier. Les syndicats en appellent au chef de l'État, ils réclament un rendez-vous à l'Élysée. François Hollande qui développe par ailleurs sa vision de l'Europe dans les colonnes du Monde, un long entretien accordé au quotidien la veille du sommet européen qui s'ouvrira demain à Bruxelles. Le chef de l'État rassurant sur la crise de la zone euro, le pire est passé, dit-il. La sortie est tout près. François Hollande qui juge par ailleurs prématuré d'évoquer l'union politique avant d'avoir bouclé l'union budgétaire. L'Europe terre de prédilection de Daniel Cohn-Bendit, l'eurodéputé écologiste qui propose que les responsables politiques suivent l'exemple des étudiants et du programme Erasmus. Il leur suggère de faire des stages de 6 mois à 1 an dans un autre État membre afin d'avoir une approche européenne des grandes questions. Renaud van Ruinbeek blanchi, le Conseil supérieur de la magistrature a pris acte de la demande de la chancellerie de mettre un terme aux poursuites visant le célèbre juge anticorruption. Il était soupçonné de pratiques illégales en marge de l'affaire Clearstream, notamment d'avoir rencontré secrètement l'ancien vice-président de ADS, Jean-Louis Gergorin, pour obtenir des informations. L'épilogue donc de 6 ans de procédure. Les députés dans le vif du sujet sur le budget 2013. L'examen de la loi de finances a débuté hier soir. Elle se poursuit cet après-midi avec deux débats sur deux points très importants. Le gel du barème de l'impôt sur le revenu malgré l'inflation, décidé par Nicolas Sarkozy et maintenu dans le projet. Et puis la création d'une nouvelle tranche à 45% pour rendre l'impôt plus progressif. Les Verts et les écologistes plaident pour des tranches encore supérieures pour les foyers les plus aisés. En attendant les conséquences sportives, voilà les premiers effets financiers pour Lance Armstrong après les révélations sur ses pratiques par l'agence américaine antidopage. Le coureur texan dont le contrat avec l'équipementier Nike a été rompu aujourd'hui et qui a par ailleurs annoncé sa démission de la présidence de sa fondation Livestrong, fondation de lutte contre le cancer dont il souhaite qu'elle soit épargnée par la controverse entourant sa carrière et ses victoires. Et puis perturbation à prévoir dans les airs et surtout sur les rails pour les vacances de la Toussaint. Ça n'était pas arrivé depuis plusieurs années, mais 4 syndicats de la SNCF appellent à cesser le travail. C'est pour jeudi 25 octobre, grève pour les salaires et la défense de l'emploi, mouvement qui pourrait être d'importance. Les 4 syndicats représentent 90% des cheminots.
France Inter, partout.
partenaire de la Fiesta des Suds du 19 au 27 octobre au Dock des Suds à Marseille. Extravagante et flamboyante, la 21e Fiesta des Suds pimente les nuits du Grand Sud à en perdre le nord. 4 soirées, une fiesta des minots, des expos, 40 concerts avec Dionysos, Goran Bregovic, Chaka Ponk, Raga Sonic, El Gusto, Roberto Fonseca, Zebda, Ernesto Tito Puentes, Mulatto Astatke, Wax Taylor, Antibalas, Deluxe. Renseignements sur franceinter.fr. On va tous y passer.
Comme en direct sur France Inter au studio 106.
Frédéric Lopez.
Demain nous recevrons Isabelle Mergault.
Et ça c'est super.
La reine. La reine Mergault.
J'en chouine de joie.
Et quoi que vous auriez pensé, n'oubliez pas que vous êtes sur France Inter et qu'elle a été financée par vos impôts.
Ça va monter en flèche le bien.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la maison de Radio France ou réservez dès à présent vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page de l'émission.
C'est entendu, je viendrai à chacune de vos émissions.
Frédéric Lopez.
Merci à vous en tout cas.
On va tous y passer.
Venez nombreux.
Du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
À demain.
Autrefois c'était mieux parce que c'était... Il n'y avait pas les... C'était...
Non. C'est... Mais vous continuez longtemps.
Tu penses qu'ils appellent ça de la musique?
En tout cas, les informations, bah, il paraît que c'est pas vrai.
Et vous, vous en pensez quoi?
France Inter, la voix est libre.
16h05 sur France Inter, bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Nicolas Taillard. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui le magnifique ténor Joseph Calleja. Bonjour.
Bonjour.
Je suis très content parce que je vous connais par disque depuis longtemps et nos auditeurs aussi, parce qu'on a diffusé déjà The Golden Voice, le disque qu'on avait reçu avec l'Academy of St. Martin in the Fields, et puis ensuite le ténor Maltese, Maltese Ténor, et puis voici maintenant un disque qui est un hommage à Mario Lanza, fameux ténor lui aussi, américain, qui était né en 1921 et qui a été très connu par le cinéma finalement. Il n'a pas fait vraiment une carrière à l'opéra et peut-être que ça a été ce qui fait qu'on l'a un peu oublié, on l'a un petit peu mis de côté. Il a été critiqué par les gens qui pensent qu'un ténor doit rester uniquement à l'opéra et ne pas faire de l'opéra à travers le cinéma, c'est ça. Et vous, vous écartez tout ça parce que vous faites un disque justement hommage où il y a à la fois de la mélodie populaire, des chansons napolitaines par exemple, et puis évidemment les plus grands airs d'opéra. Alors évidemment c'est une décision importante, mais je pense que d'avoir vu Mario Lanza dans un film fameux qui s'appelait Le Grand Caruso, qui date de 1951, ça a été très important pour vous, Joseph Calleja.
Oui. Oui, pourquoi il était... Parce qu'elle était la fenêtre pour moi, pour l'opéra. J'entrais dans le monde de l'opéra grâce à lui, à Mario Lanza. Et pour avoir le plaisir, le privilège de faire ce disque en tribute pour lui, pour moi c'est un grand honneur parce qu'il avait une voix d'or. Oui. C'est une voix très, très, très belle, très puissante. Et un charisme dans ce personnage que c'était vraiment étonnante.
Alors, tribute, donc hommage. On le dit parce que c'est vraiment très sincère de votre part. Et on sait que Lanza a inspiré aussi énormément d'autres chanteurs qui étaient très estimés de Maria Callas, par exemple. Et puis Domingo, et puis Alania, et puis tant d'autres. On dit qu'ils avaient finalement, évidemment, je vais citer tous ceux, les trois ténors, Pavarotti, Carreras, ils ont tous dit qu'ils avaient vu ce film et puis qu'ils avaient été touchés. Et finalement, ils ont décidé de faire cette carrière grâce à ce type, ce personnage qui n'est pas venu sur les scènes. C'est fantastique, ça.
Mais il y a une raison parce qu'il n'a fait pas beaucoup de scènes. Parce qu'en fait, il a fait seulement peut-être trois opéras différents, peut-être peut-être 8, 11 représentations en tous.
Oui.
Mais il y a une raison très simple pour ça. Je fais le dernier mars un caméo. J'ai joué Caruso dans un film d'Hollywood à New York, filmé sous la location de Ellis Island à New York, oui, avec James Gray, qui est le directeur de film, avec Marion Cotillard, Joaquin Phoenix.
Ah, très bien, on est content.
Et Jeremy Renner. Et pour 3 minutes, on a filmé 14 heures.
Oui,
c'est alors, ça, c'est absolument impossible de faire beaucoup de films, d'être le protagoniste et aussi, en parallèle, d'avoir aussi
une carrière ça, voilà, ça prend tellement de
c'est
temps.
Impossible. Et puis, quand il a décidé de quitter le film et d'aller sur la scène, c'était trop tard parce qu'il avait de graves problèmes de santé.
De cœur, il est mort d'une crise cardiaque à l'âge de 38 ans.
Hein. Ah oui. Alors j'ai encore 4 ans maintenant.
Beaucoup plus, on le souhaite, okay. Joseph Calleja. Voici un de ses grands succès, c'est Be My Love. D'ailleurs, c'est le premier titre de votre nouveau disque qui est publié d'ailleurs chez Decca. Oui. Et voici un petit peu en français de ses paroles. Sois mon amour, car personne d'autre ne peut répondre à cette aspiration. Ce besoin que toi et rien que toi, tu crées, viens dans mes bras.